Dans Réveillez-vous, on parle énergie avec Éric Tétrault.
Oh oui, Éric Tétrault qui est avec nous comme à tous les mercredis matin. Éric, bienvenue.
Comment allez-vous?
Ça va très bien de ton côté.
Ça va bien?
Oui.
Ça va bien. Le printemps arrive, j'ai l'impression. En tout cas, des fois, je ne sais pas trop si on est au printemps ou en hiver, mais il me semble que ça s'en vient quand même.
Ça s'en vient. Oui, bien, nous, on a eu quand même quelques belles journées. Là.
C'est en fin de semaine, oui. Puis en fin de semaine, nous, la température prend congé la semaine. Fait frais la semaine, puis la fin de semaine fait beau. Fait qu'on peut pas trop se plaindre pour l'instant.
Ah, OK.
Ben, toi, tu viens de vivre au Saguenay.
Moi, non, c'est ça, je voulais dire, parce que je veux vous dire que Montréal, c'est à l'envers.
Ah non, puis vous avez eu un hiver de merde, faut le dire. Nous, à toutes les fois qu'on voyait des tempêtes chez vous de bordel, nous, tout était beau. Pas de tempête. Habituellement, c'est le contraire, mais non. Le mur du parc a bien fonctionné cette année.
OK, c'est ça. C'est à votre tour. Correct.
Ben oui, de temps en temps. On n'est pas obligé de toujours payer. Hey, tu nous parles de consultation sur l'énergie du gouvernement du Québec qui va débuter le 15 mai prochain.
Oui, c'est ça. C'est important. C'est un important exercice auquel le gouvernement va convier celles et ceux qui sont intéressés. Mais j'ai choisi de vous en parler ce matin parce que ça va être de plus en plus dans les manchettes, puis je voulais démystifier ça peut-être un peu pour les gens qui nous écoutent. Pourquoi d'abord, pourquoi le gouvernement se lance dans cette vaste consultation-là? C'est, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, l'idée du gouvernement n'était pas de tenir une vaste consultation sur le secteur énergétique au Québec. Ce qu'on souhaitait d'abord et avant tout faire au gouvernement, c'était d'adapter le cadre législatif d'Hydro-Québec et de la Régie de l'énergie en fonction des nouvelles réalités, c'est-à-dire voir comment, quel sera l'encadrement législatif okay. sur ces questions-là qui déterminent ni plus ni moins l'offre en électricité et les tarifs, etc. Parce que vous savez que la stratégie principale, enfin l'élément principal du gouvernement du Québec pour réduire ses émissions, c'est d'électrifier le transport. Alors, ça nécessitait évidemment, des modifications législatives. Et puis, il y a aussi tout le rapport que le gouvernement entretient avec Hydro-Québec. On en a amplement parlé cet hiver à la faveur du départ de Mme Brochu et de la façon dont le gouvernement entend travailler avec Hydro-Québec. Voilà, donc en fait, c'était au départ l'objectif d'adapter la législation au rôle qu'on veut faire jouer à Hydro-Québec et à la tarification. Maintenant, ça s'est élargi suite aux demandes pressantes d'un groupe, je dirais, d'un regroupement de gens qui s'intéressent au secteur de l'énergie au Québec et qui voient ça d'un autre œil, en fait. Et qui voient ça, je dirais, d'un œil un peu plus à gauche, si j'ose dire, c'est-à-dire que ces gens-là réclamaient un BAP sur l'avenir énergétique du Québec. Rien de moins que ça.
On devrait-tu vraiment se fier au BAP pour notre avenir énergétique? Ouais, parce qu'on a vu, ils ne veulent pas grand-chose.
Le dernier BAP qu'on a vu, là, c'était pas très, très concluant.
J'osais pas vous dire, mais la dernière fois que vous avez entendu parler du BAP, c'était pas joyeux.
Ouais, quand tu parles de BAP à des Saguenayens, ils sont un petit peu échaudés, mettons.
Bien, puis je les comprends parce que je veux juste rappeler que les conclusions principales du BAP, c'est qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour GNL Québec, ce qui est faux, ce qui était entièrement faux, ce qui était l'équivalent de donner un droit de veto à l'ensemble des régions du Québec sur des projets industriels qui appartiennent à une région. Mais l'autre conclusion, c'était qu'il n'y avait pas de marché après 2025 pour le gaz naturel liquide. Je pense que les gens à Nouvelle-Orléans, où il y a 14 projets aux États-Unis, où il y a 14 projets en construction et 13 qui sont en opération, je pense que ces gens-là n'ont pas eu le mémo du BAP. Alors, tout ça pour dire que ce qu'on réclame, c'est une vaste consultation. Et ce qu'on dit de la part de ces gens-là, ce qu'on dit, c'est que la décarbonisation de l'économie, ben, c'est lié au mode de production, de consommation, d'habitation et de déplacement qui sous-tendent notre consommation d'énergie. Alors, ça revient à ce qu'on se dit depuis quelques semaines, ça revient dans nos discussions, c'est qu'en fait, il n'y aura pas moyen d'atteindre les cibles de réduction d'émissions qu'on s'est fixées pour 2030 au Québec et au Canada, ni ailleurs dans le monde d'ailleurs, ou à peu près. Il n'y aura pas moyen d'atteindre ces cibles de réduction d'émissions-là sans forcer d'une certaine manière, ou en tout cas sans y aller avec une contrainte sur les habitudes de vie des citoyennes et des citoyens. Ça sera juste pas possible. On voit très bien là que quand on parle de mode de production, là, on parle de l'industrie, mais quand on parle de mode de consommation, on parle de nous là.
Oui.
Le mode d'habitation, on parle de nous là. Et quand on parle d'habitation, on parle pas simplement de mettre des panneaux solaires au lieu de l'électricité sur le toit de votre maison. Quand on parle d'habitation, c'est qu'on parle du type d'habitation qu'on veut avoir puis où on va demeurer.
Ouais.
Est-ce que non, mais je veux dire, à un certain moment donné, on extrapole puis on va se dire que c'est le mode de vie de banlieue qui est responsable des émissions. Pourquoi? Parce qu'on habite à deux ou à trois personnes dans une maison qui est trop large, qui est trop grande pour nous. On a deux voitures, il y en a une de trop, etc. T'sais? Alors là, à un certain moment donné, là, c'est sûr qu'on s'en va vers là. C'est sûr qu'on s'en va vers là parce qu'on parle de déplacement en même temps. T'sais, c'est très clair qu'on s'en va vers là. Fait que moi, c'est le bout qui m'intéresse personnellement, okay, de voir quel genre de réponse, d'écoute ou de réponse que le gouvernement actuel va donner à ça. Pourquoi? Parce que on comprend bien qu'il n'y a pas un sacré gouvernement dans le monde qui souhaite, en se levant le matin, se partir un projet de loi en disant qu'on va restreindre les libertés des libertés individuelles.
Là. Non, c'est sûr, puis ça passerait pas, là. Ça passerait pas.
Alors, c'est ça qui va être très, très intéressant. Le communiqué officiel, ce qu'il dit, c'est que on va prioriser, bien sûr, l'électrification, mais on va miser sur l'efficacité énergétique.
OK.
Vous voyez, c'est quand même assez vaste, là. Et l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est-tu chauffer à 19? Il y a Dan Bigra qui nous disait récemment là, que on chauffera à 19, puis vous mettrez un petit jus de laine, puis ça va finir là.
Ben oui, monsieur qui vend des gros pick-up.
Ben oui, c'est facile, tu sais.
C'est sûr. Mais, oui. Mais, tu sais, je veux juste rappeler que l'efficacité énergétique, ça peut avoir le dos large. Tu sais, à un moment donné, on parlait on parlait du chauffage, mais on parlait de bien d'autres choses, là. On parlait d'avoir certaines activités dans la maison qui pourraient être faites ailleurs dans la journée. Tu sais, faire la vaisselle à minuit ou des choses comme
oui.
ça. Ou, bon, je pense que le ministre l'a dit davantage en blague. Là, je ne veux pas le prendre au mot là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que de façon générale, c'est très clair que c'est très clair que on va souhaiter que les gens se mettent à économiser leur électricité. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça sans changer les habitudes de vie des gens? Et l'autre question, c'est, est-ce que les tarifs d'électricité vont être modulés en fonction de votre bilan carbone?
Oh!
Ben, pourquoi pas?
Pourquoi
est-ce que moi, je dirais pas, comme gouvernement, dans ma plateforme électorale, on n'aura pas d'électricité pour tout le monde, priorité à ceux qui en font une utilisation judicieuse?
Ben oui!
Ben, ça va être ça, de toute façon. C'est déjà le cas. Pour ce qui est de l'industrie, on sait très bien que l'électricité actuellement, ça coûte plus cher déjà pour les PME. Il y a eu des augmentations là récemment. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos grands projets industriels? T'sais? Est-ce qu'on va vouloir absolument assujettir les tarifs aux émissions d'industrie? Et ça, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire, plus vous émettez de GES, plus l'électricité va coûter cher, ou si on juge même que vous en émettez trop, on ne vous donnera pas les permis et les autorisations, puis vous allez faire votre projet ailleurs. Si c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité pour tout le monde, puis qu'on ne soit pas capable, puis qu'on n'est pas capable d'être aussi efficace sur la consommation d'électricité et d'énergie qu'on souhaite dans les prochaines années, puis qu'il en manque, qu'est-ce qu'on va faire de notre électricité on va le donner à ceux dans l'industrie qui auront le meilleur bilan carbone. En tout cas, qui, sur papier, dans leur projet, promettront de réduire les émissions, en tout cas, d'en émettre moins que l'autre, que le voisin dans son projet à lui. Tu sais, à certains moments donnés, ça s'en vient compliqué, là, parce que ça ne veut pas dire que c'est le meilleur projet pour l'économie du Québec, ça, là.
Effectivement. Gros questionnement, ça. Hey, c'est oui.
Et ça devient une deuxième tarification, parce que l'industrie, elle paye déjà à travers le marché du carbone. Au Québec, le marché du carbone qui fait en sorte qu'on paye nos émissions supplémentaires.
Oui, oui.
Au lieu d'aller s'acheter des crédits, ça devient une deuxième tarification. Quel sera l'impact auprès des investisseurs, étrangers surtout? Ils vont se dire, bon, mais là, ça sent bien compliqué un peu, là, au Québec, là. Puis, tu sais, on joue avec quelque chose de gros, là, parce que les tarifs d'électricité, ça a toujours été notre produit d'appel au Québec pour aller chercher des investissements étrangers. Ça a toujours été un des facteurs les plus importants pour attirer des importants projets industriels au Québec. Le coût de l'électricité, ça coûte plus cher en Ontario, pas mal à part de ça. Et aux États-Unis aussi.
Oui.
Par contre, les États-Unis n'ont pas la même tarification que nous. Ils sont moins gourmands fiscalement que nous auprès des entreprises. Ça reste quand même très compétitif, plus compétitif que nous, tu sais. Autre chose, est-ce que le citoyen va payer plus cher son électricité?
Bonne question.
C'est une des grandes questions qui demeure. On n'aura certainement pas les réponses lors de la consultation, mais on va avoir des réflexions, on va avoir des éléments dans cette consultation-là qui vont alimenter votre réflexion. Vous allez voir. Regardez ça sous cet angle-là. Est-ce que ça risque de me coûter plus cher? Puis qu'est-ce que les gouvernements vont tenter de faire pour changer le mode de vie des citoyens? C'est ça qui va être intéressant. Il va falloir en venir à ça éventuellement. Entre ça et 2030, il va y avoir une élection. On va voir comment le gouvernement va réagir. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant, puis ça va être déterminant. En passant, les gens pourront envoyer des mémos entre le 1er juin, je crois, et le 1er septembre. Enfin, vous regarderez, c'est dans l'actualité, vous ferez une recherche, vous allez voir, le gouvernement ouvre des consultations. Ce seront des consultations en ligne. Ça commence le 15 mai par une table ronde d'experts en énergie qui va donner un peu qui vont chacun donner leur point de vue sur où on est et où est-ce qu'on s'en va en matière d'électricité. Puis ça va être une conversation assez large, remarquez bien, parce que on sait déjà ce que Québec fait. Électrifier le transport, chercher à avoir plus d'efficacité énergétique de la part de tous et y aller avec des filières d'énergie renouvelable comme les éoliennes, le solaire et les biocarburants. Et tout ça, là, je veux juste vous dire, là, pour ce qui est de l'énergie renouvelable, la portion énergie renouvelable, moi, ce qu'on vient de dire, les éoliennes, ça demeure très, très marginal. Là. Même s'il y a des
appels
offres en cours, puis qu'on parle beaucoup de ces projets-là avec les Autochtones, entre autres, pas seulement au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, mais dans le nord du Québec et sur la côte nord, les éoliennes, là, c'est peut-être 4 à 5 % de l'énergie au Québec, là, puis ça va demeurer quelque chose qui est complémentaire. Là. On verra jamais le jour où le Québec, où l'électricité du Québec fonctionne avec des éoliennes. Oubliez ça, là, ça en prendrait plusieurs dizaines de
billets. D'un, mais en même temps, s'ils ne vendent pas, t'as rien. On peut pas fluctuer comme ça l'électricité, là.
Non, parlez-en à la Grande-Bretagne, qui tire 25 % de son énergie des éoliennes en mer du Nord, puis ça fait 2 à 3 ans là, qu'ils vendent beaucoup moins en mer du Nord.
Puis on s'entend qu'en Grande-Bretagne, dans le monde, la Grande-Bretagne est pas mal l'endroit le plus venteux au monde. Fait qu'imagine, là, il arrive pas.
Ouais, s'il faut qu'ils vendent, c'est sûr qu'il va vanter là-bas. Mais oui, c'est ça. En fait, on scie sur quelque chose qui est... En fait, on compte beaucoup sur quelque chose qui n'est pas entièrement fiable. Malheureusement, le jour n'est pas proche encore. On pourra emmagasiner l'énergie éolienne et pouvoir la redistribuer au gré des besoins. Il s'investit plusieurs milliards de dollars là-dedans sans grandes conséquences pour l'instant, c'est sûr. Alors voilà, donc c'est Ça va être intéressant. Puis nous autres, ben, on est contents parce que ça va nous donner du matériel.
Ben oui, effectivement.
On va pouvoir en parler.
On aura la chance d'en reparler, évidemment. Éric Tétrault, merci beaucoup.
Salut, merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.